Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur une expression biblique que j'ai croisée dans mes lectures récemment et qui m'a interpellé. En effet, comme vous allez le constater par vous-même, cette expression est plutôt surprenante et elle mérite qu'on s'y arrête. Elle mérite quelques mots d'explication au risque de mal la comprendre. Cette expression se trouve au début de la première lettre aux Corinthiens et il s'agit de la folie de Dieu. Je vous invite à l'écoute des versets qui contiennent cette expression et que nous allons méditer. Je lis 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 17 à 25. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages » et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Avant de nous arrêter sur cette expression, la folie de Dieu, qui se trouve donc au verset 25 du passage que je viens de lire, et avant d'essayer de comprendre la pensée de l'apôtre, je vous propose de nous arrêter sur une autre des folies mentionnées dans ce texte, à savoir la folie de la sagesse du monde. Ce sera notre deuxième point, la folie de la sagesse du monde. Je relis les versets 20 et 21. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Pour bien comprendre ce que Paul dit ici, il faut tout d'abord se rappeler qu'il s'adresse aux Corinthiens, c'est-à-dire à des chrétiens vivant en Grèce. Or, vous savez comme moi l'importance pour les Grecs de l'époque de la sagesse, de la rhétorique, de l'éloquence, de la philosophie en général. Mais pourquoi l'apôtre aborde-t-il ce sujet de la sagesse humaine dans cette lettre? Sans doute, certainement même, parce qu'il y avait à Corinthe des chrétiens qui devaient lui reprocher de ne pas être à la hauteur. ne pas être à la hauteur des maîtres de rhétorique de l'époque, et puis en particulier, il reprochait à Paul de manquer d'éloquence. Sans doute même, en était-il venu à questionner l'Évangile, remettre en question l'Évangile, tant l'apôtre manquait d'éloquence à leurs yeux. C'est ce que nous comprenons au début de la lettre. C'est ainsi, par exemple, au verset 17, que Paul dit qu'il est venu annoncer l'Évangile, mais sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage, sans éloquence. C'est ainsi qu'il dit encore, quelques versets plus loin, au début du chapitre 2, ceci. Pour moi, frère, dit-il, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul dénonce donc la sagesse du monde, qu'il estampille de folle. Qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? Tout d'abord, il ne faut pas comprendre que tout ce qui est de la sagesse humaine est mauvais. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. En fait, Paul ne condamne pas l'éloquence. Paul ne condamne pas l'instruction, Paul ne condamne pas une saine manière de raisonner. Ce n'est absolument pas son propos dans ce passage. Si l'apôtre condamne la sagesse humaine, c'est dans son rapport à Dieu, c'est dans son rapport à l'Évangile, et c'est en particulier dans son rapport au Christ crucifié. Si la sagesse du monde est folle, comme le dit Paul, ce n'est pas parce qu'elle dit des bêtises à longueur de journée, elle dit même des choses très intelligentes par moment. Si Paul dit que la sagesse du monde est folle, c'est parce qu'elle n'est pas parvenue à connaître Dieu par elle-même. Voilà pourquoi la sagesse du monde est folle. C'est parce qu'elle a rejeté Dieu et rejeté son salut. C'est parce qu'elle rejette l'Évangile. C'est parce qu'elle rejette la croix. C'est parce qu'elle rejette le Christ crucifié. En fait, la sagesse du monde est folle, dit Paul, parce qu'elle mène à la perdition, tout simplement. C'est la véritable raison de cette folie. Ainsi, au verset 18, Paul dit que la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. En effet, malgré tous leurs efforts, malgré toutes leurs spéculations, les hommes ne sont pas parvenus et ne parviennent toujours pas à connaître Dieu par eux-mêmes. Au mieux, dit Paul, au début de sa lettre aux Romains, les hommes sont parvenus et parviennent à fabriquer des dieux à leur image. Voilà jusqu'où ils peuvent aller. À leur image ou à celle d'animaux, dit-il. Regardez ce qu'il écrit dans Romains 1, versets 22 et 23. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que la sagesse humaine arrive à produire quand elle cherche Dieu. Pas plus, ni moins d'ailleurs. Voilà ce que la sagesse humaine produit quand elle cherche Dieu, des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et c'est la raison pour laquelle, dit Paul, cette sagesse des hommes n'est que folie aux yeux de Dieu. Folie parce qu'elle garde les hommes dans l'ignorance du salut véritable. Elle garde les hommes dans cette ignorance et elle les mène à la perdition. Folie parce qu'elle méprise celui que Dieu a choisi pour nous sauver, le Christ crucifié. Voilà la véritable folie de la sagesse du monde. Mais il y a plus encore. Il y a plus encore parce que non seulement l'homme est incapable par lui-même de connaître Dieu, et c'est vrai chez les Grecs, comme c'était vrai, les Grecs qui représentaient les païens de l'époque, comme c'était vrai chez les Juifs, dit Paul au verset 20. Mais en plus, Dieu a frappé de folie la sagesse du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire simplement que Dieu, dans sa sagesse, a déterminé que l'homme pécheur ne pourrait jamais accéder par lui-même à la connaissance du salut. Quels que soient ses efforts, quelle que soit sa sagesse, l'homme ne pourra jamais y parvenir par lui-même. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre va citer un texte du prophète Ésaïe au chapitre 29, verset 14, il le cite au verset 19, où Dieu dit déjà dans l'Ancien Testament qu'il détruira la sagesse des sages et qu'il anéantira l'intelligence des intelligents. Mes amis, la sagesse humaine n'est pas un chemin qui conduit à Dieu. Aussi sage soit-elle, elle ne sera jamais un chemin qui conduit à Dieu. Parce que Dieu a déterminé un moyen de salut, et un seul, le Christ crucifié. Lui seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lui seul est le chemin qui mène au Père. Lui seul peut nous sauver de nos péchés. C'est pourquoi aucune sagesse ne peut y parvenir. C'est pourquoi la véritable connaissance de Dieu, celle qui mène au salut, ne peut venir que d'une révélation de Dieu, que d'une révélation de sa part. Et jamais l'homme, fût-il le plus sage de la terre, fût-il le plus intelligent, ne pourra y parvenir par lui-même. Si jamais vous êtes intéressé et que vous lisez la suite de notre texte, vous verrez qu'au chapitre 2, l'apôtre Paul aborde cette question de la nécessité de la révélation, de la nécessité de l'action de l'Esprit, parce que l'homme naturel, l'homme pécheur ne peut pas recevoir, dit-il, les choses de Dieu. Oui, Dieu a choisi de sauver les hommes par la croix du Christ crucifié. Mais la sagesse humaine l'a rejetée, considérant que c'était une folie. Et c'est ce qui amène donc l'apôtre Paul à parler de la folie de Dieu. Ce sera notre troisième point. Alors mettons d'emblée les choses au clair, Dieu n'est pas fou. Il n'y a pas de folie en Dieu. Au contraire, Dieu est infiniment sage. Alors pourquoi parler de folie pour Dieu ? Certainement, je le redis, parce que c'est ainsi que les sages de l'époque, auxquels Paul fait référence dans notre texte, c'est ainsi qu'ils en parlaient. C'est quoi l'Évangile ? L'Évangile, c'est le salut préparé à l'avance par Dieu et accompli par la mort infâme, ignominieuse du Fils de Dieu sur la croix, du Messie crucifié. Or, ce message, cette prédication était une folie pour les sages de l'époque. Pour ceux qui périssent, dit Paul au verset 18. Et au verset 23, il dit que c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, les païens. Un scandale pour les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient un Messie plein de puissance, plein de majesté, attesté par des manifestations de puissance et de majesté. Voilà le Messie que le peuple juif attendait. Et c'est la raison pour laquelle il demande des signes, comme Paul le dit ici au verset 22. C'est la raison pour laquelle, tout au long du ministère de Jésus, ils lui ont demandé des signes. Or, c'est dans la faiblesse que le Christ est venu, et c'est dans la faiblesse qu'il s'est donné. Alors on comprend facilement qu'un tel Messie était une aberration pour les Juifs. C'était incompréhensible. C'était un scandale, littéralement une occasion de chute, un obstacle à la foi, voilà ce que ça veut dire. Parce que pour le Juif, le Messie devait être puissant, resplendissant et victorieux. Et Jésus à la croix était faible, humilié et vaincu. Alors pour les Juifs, parler de Messie crucifié, ce n'était pas possible. D'ailleurs, pour eux, c'est une contradiction dans les termes. Messie ne pouvait pas être crucifié, le Messie était victorieux. Quelqu'un pouvait être crucifié, mais certainement pas le Messie. Pour les Juifs, c'était donc un scandale. Et c'était un scandale aussi sur la base d'un texte de la loi, le texte du Deutéronome 21, verset 23, qui dit que celui qui est pendu au bois ne pouvait être que sous la malédiction de Dieu. Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire, etc. Comment donc un Christ crucifié pouvait-il être choisi par Dieu pour nous sauver ? Un Christ pendu au bois, maudit de Dieu, serait le moyen du salut ? Non, le Christ crucifié était un scandale pour les Juifs de l'époque, un obstacle à leur foi. C'est ce que Paul dit. Et puis pour les païens, pour les Grecs, il dit que c'était une folie. Les Grecs avaient des attentes d'éloquence, de beaux raisonnements, etc. Ils avaient construit toute une vision du monde, cohérente à leurs yeux, mais dans laquelle l'Évangile ne trouvait pas sa place. Et les Grecs considéraient la crucifixion comme de la pure barbarie. Alors, un Christ crucifié pour nous sauver, ça ne pouvait pas coller dans la pensée des sages de l'époque. Une folie donc pour les Grecs, les païens, parce que ce salut en Jésus était à des années-lumière de leurs attentes, de leur compréhension des choses et de leur sagesse. Ainsi, pour les Juifs et pour les Grecs, et pour tous les hommes en général, le salut de Dieu par l'intermédiaire d'un Messie crucifié est une chose insensée, il faut le dire. C'est une aberration, c'est un scandale, c'est une folie. C'est la folie de la croix, dit Paul au verset 18. C'est la folie de la prédication, dit-il au verset 21. Non pas de ce que je suis en train de faire là, mais du contenu de la prédication, c'est-à-dire du message, c'est-à-dire du Christ crucifié. Ainsi, si les Grecs pouvaient parler de folie de Dieu, Paul va leur dire, va dire au verset 25 que la folie de Dieu, puisqu'il la nomme ainsi, est en réalité plus sage que les hommes. Plus sage, pourquoi ? Plus sage parce qu'elle sauve, à l'inverse de ce que fait la sagesse des hommes. Elle sauve réellement la sagesse, enfin la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. Et elle est plus sage que les hommes parce qu'aucun humain, d'aucune manière, n'aurait jamais pu imaginer le plan de Dieu pour notre rédemption au travers d'un Messie crucifié. Ainsi, si les Juifs pouvaient parler de faiblesse de Dieu, Paul va dire au verset 25 que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, que la force des hommes. Plus forte pour la même raison qu'elle est plus sage, parce qu'elle sauve réellement ce que la sagesse des hommes est absolument incapable de faire. Paul donc oppose à la sagesse humaine la folie de Dieu, qui n'est autre, nous l'avons dit, que la croix du Christ, verset 18, la parole de la croix, verset 18, le Christ crucifié, verset 23. Ce Christ crucifié qui est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Non, le succès de l'Évangile, le succès de l'Évangile ne réside pas dans les belles paroles, ne réside pas dans les prédications au cordeau parfaitement pensées en trois points. Le succès de l'Évangile ne dépend pas de la rhétorique, ne dépend pas de l'éloquence, même si toutes ces choses sont très bien, ne dépend pas de l'habileté du prédicateur, mais elle dépend de la puissance de Dieu et elle dépend de la sagesse de Dieu qui a été manifestée à la croix. C'est cet évangile, dit Paul au verset 17, qu'il est venu annoncer, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Que conclure ? Premièrement, que l'homme pécheur s'est toujours cru plus sage que Dieu. C'est comme ça depuis le début. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. L'homme pécheur s'est toujours cru plus sage que Dieu. Son indépendance vis-à-vis de Dieu, son autosuffisance, sont au cœur de sa nature pécheresse. C'est bien sûr toujours vrai aujourd'hui. Deuxièmement, que sa sagesse, la sagesse des hommes, pour ce qui est du salut, est une folie, quelle que soit la sagesse. C'est une folie parce qu'elle ne peut pas le sauver et parce qu'elle le conduira inévitablement à la perdition. Ça aussi, bien évidemment, ça reste vrai aujourd'hui. Troisièmement, que pour nous sauver, Dieu a pourvu un moyen, et un seul, c'est le Christ crucifié. C'est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont appelés, dit Paul, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage et plus forte que les hommes. Ça aussi, bien évidemment, c'est encore vrai aujourd'hui. Ce qui me sauve, ce n'est pas d'être sage à mes propres yeux, ce n'est pas d'avoir compris tous les mystères de la terre, ce n'est pas d'être le plus intelligent des hommes, j'en suis loin, mais ça serait, même si je l'étais, ce ne sera jamais cela qui me sauvera. Ce qui me sauve, c'est de recevoir le Christ qui est mort pour mes péchés. Quatrièmement, que le salut n'est pas une question de logique. Jamais. Ce n'est pas une question de sagesse, à part celle de Dieu, mais c'est une question de foi. Le salut est même incompatible avec les prétentions de la sagesse humaine, qui ne voit dans ce salut d'un homme crucifié qu'une histoire à dormir debout. Et mes amis, personne n'est sauvé par sa propre sagesse, personne. Si quelqu'un est sauvé, c'est par la sagesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ et en mettant sa foi dans le Christ crucifié. Chers amis, quel regard portez-vous, portons-nous, portez-vous sur l'Évangile? Quel regard portez-vous sur la croix? Quel regard portez-vous sur le Christ crucifié? Est-ce que vous y voyez de la folie? Est-ce que vous y voyez quelque chose d'insensé? Ou est-ce que vous y voyez la sagesse et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Il est possible que tout cela vous paraisse vraiment insensé. Et vous avez raison, d'une certaine manière. En tout cas, d'un point de vue humain, c'est insensé. Du point de vue de la sagesse humaine, c'est complètement insensé d'être sauvé par un Christ crucifié. Mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et la folie de Dieu, pour reprendre l'expression de Paul, est plus sage que la sagesse des hommes, qui, elle, nous mène à la perdition. Attention donc à ne pas penser que nous pouvons être plus sages que Dieu. Attention donc à ne pas mesurer Dieu à l'aune de notre propre sagesse, parce que dans le domaine du salut, notre sagesse n'est que de la folie. Un peu plus loin, au chapitre 3 de cette première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va nouer la gerbe, comme on dit. Voilà ce qu'il dit. Et je termine avec cela. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle de la sagesse du monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie, et encore le Seigneur connaît les raisonnements des sages, il sait qu'ils sont vains, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Oui, que nul ne s'abuse lui-même, que personne ne mette sa gloire dans les hommes et dans leur sagesse, mais qu'il mette sa confiance en Jésus-Christ crucifié pour nous sauver. Alors oui, que Dieu nous fasse cette grâce à chacun d'être sage, non pas à nos propres yeux, mais à ses yeux, afin d'être sauvés. Amen.